Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Oui, 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 6h avant minuit sur Syllab. Nous sommes le jeudi 19 juin 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab sur le 88.4. Merci à vous. Et la consigne du verre vient de faire son grand retour en Bretagne. J'avais envie de vous en dire quelques mots parce que je trouve que c'est une super initiative. En fait, c'est une expérimentation qui a lieu depuis jeudi dernier dans 4 régions, dont la nôtre, et pendant 18 mois. Donc sachez que vous pouvez maintenant ramener vos contenants en verre en magasin. En échange, vous recevez 10 centimes pour les petits emballages, 20 pour les grands. 8 enseignes de la grande distribution participent à la démarche. Système U, Carrefour, Intermarché, Monoprix, Biocop, Leclerc, Brasserie du Bout du Monde et Auchan. J'ai tous dit, pas de problème. Attention, seuls les contenants disposant d'une petite étiquette violette et jaune avec les messages « Rapportez-moi pour le réemploi » ou alors « Récupérez le montant de votre consigne en rapportant cet emballage » sont acceptés à la récup. Les bocaux sont ensuite lavés et remis en circulation. L'objectif du gouvernement, c'est 10% d'emballages réemployés d'ici 2027. Alors, chers auditeurs et auditrices, je compte sur vous. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à participer pour éviter le gâchis de ressources et favoriser l'économie circulaire. Tout de suite, le flash d'Anthony.
L'armée israélienne a lancé des attaques pour cette septième nuit sur Téhéran et d'autres secteurs en Iran. Depuis le 13 juin, le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie. Israël craint une éventuelle acquisition de la bombe atomique par son voisin iranien. Pour Benjamin Netanyahu, il y a encore de très nombreux objectifs nucléaires à éradiquer. Aux États-Unis, Donald Trump entretient le doute quant à d'éventuelles frappes américaines contre l'Iran et dit souhaiter une capitulation sans condition du pays. Le bilan humain fait état de 224 morts en Iran, 24 en Israël. L'Iran a également opéré des tirs, notamment par drone, sur camps israéliens. Et dans l'ombre d'un surplus de projecteurs tournés vers le conflit Israël-Iran, un silence mortel s'installe à Gaza. Mardi matin, au sud de l'enclave, des dizaines de personnes ont été tuées alors qu'elles attendaient de la farine. Deux jours après, le même récit. La guerre continue jour et nuit.
Il y a des cris qu'on n'entend plus, des morts qu'on ne compte plus. Pendant que les regards restent fixés sur la confrontation entre Israël et l'Iran, d'autres vies s'effacent dans un silence presque total. Derrière le rideau des grandes déclarations diplomatiques, Gaza, elle, s'enfonce dans un siège devenu famine, dans une guerre dont le tempo s'accélère sans répit et où l'aide à l'accès humanitaire est devenue un piège mortel. Du 10 au 15 juin, pour la 9e fois, Gaza est plongée dans le noir, plus de communication, plus de secours. Nour El-Assi, journaliste et poétesse palestinienne, évoque dans une chronique à Mediapart cette autre arme d'Israël pour tuer dans le noir. Mardi matin, une file de milliers de personnes s'est formée dès l'aube à Khan Younes sous une chaleur caniculaire devant un camion transportant de la farine. Rapidement, des tirs de fusils d'assaut et des obus de chars ont frappé la foule. Selon le ministère de la Santé palestinien, au moins 59 civils ont été tués, dont 51 en lien direct avec cette distribution d'aide alimentaire. Pour Riyad Awam Amawi, coordinateur d'une ONG locale, ce sont des pièges mortels. Beaucoup de mères interdisent à leurs fils d'y aller, mais la nécessité est bien plus forte. Aujourd'hui, deux jours après le carnage de Khan Younes, une nouvelle tragédie s'abat sur des civils gazaouis dans le corridor de Netzarim, où des milliers de Palestiniens et Palestiniennes s'agglutinent chaque jour pour tenter de recevoir un sac de farine ou une boîte de conserve. L'armée israélienne a de nouveau ouvert le feu sur eux. Tirs de chars, frappes de drones, bombardements aériens, 25 personnes, dont 15 venues chercher de l'aide alimentaire, sont mortes sur place selon la défense civile. 60 autres ont été blessés et encore une fois, donc comme une répétition macabre, les corps jonchent la poussière sans aucun secours ne puisse les atteindre.
Cette nouvelle hécatombe survient dans un contexte de famine avancée. L'entrée d'aide se limite aujourd'hui à un seul point, Kerem Shalom, où seuls 46 camions sont passés le 17 juin alors qu'il en faudrait près de 600 chaque jour pour couvrir les besoins alimentaires de la population. Les carburants, essentiels pour désanalyser l'eau et alimenter les camions-citernes, sont aussi quasi épuisés. Des services vitaux en passe de s'écrouler sous la chaleur estivale, alerte Amande Bazerolle, la coordinatrice d'urgence de Médecins Sans Frontières. Une aide humanitaire qui est désormais contrôlée par la Gaza Humanitarian Foundation, lancée sous Trump en février 2025 et soutenue par Tel Aviv. Elle a pris le relais du modèle humanitaire traditionnel. Une organisation critiquée par l'ONU qui voit un système militarisé, privatisé et politisé incompatible avec les principes humanitaires. Et pourtant, les États détournent les yeux. Au G7, les pays ont exigé le droit d'Israël à se défendre contre l'Iran sans prononcer un mot sur la mortalité croissante à Gaza. Dans ce théâtre de la survie où l'humanitaire se confond avec la guerre, c'est la vie quotidienne des civils qui est broyée. La question demeure, jusqu'à quand l'aide sera-t-elle un synonyme de danger plutôt que de survie ?
Du nouveau dans l'affaire du petit Grégory. 40 ans après la disparition du petit garçon, Jacqueline Jacob, 80 ans, pourrait être mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Selon le procureur général de Dijon, cette convocation devrait avoir lieu dans quelques mois. Jacqueline Jacob, identifiée comme l'auteur d'une lettre menaçante en 1983 concernant le petit Grégory, avait déjà été interrogée en 2017 avec son mari Marcel, mais les poursuites contre eux avaient été annulées. De nouvelles expertises ont été réalisées et la chambre de l'instruction a récemment demandé un interrogatoire de Jacqueline Jacob. Les parents de Grégory, Jean-Marie et Christy Villemain ont accueilli cette décision avec émotion et reconnaissance, soulignant leur volonté de participer aux audiences pour obtenir justice pour leur enfant assassiné il y a plus de 40 ans. En revanche, l'avocat des époux Jacob a qualifié cette annonce de non-information, affirmant qu'il n'y a pas de nouvelles preuves. Nous ne sommes pas dans le top 10 mondial, ce sont les mots de Guillaume Faury, patron d'Airbus, qui s'attriste d'avoir une industrie faible par rapport aux États-Unis. Pourtant, Airbus est la plus importante industrie de défense de l'Union européenne. Lors de sa présence au Salon du Bourget, l'avionneur a pourtant reçu 250 commandes de plusieurs compagnies. Des démissions de maires en hausse, c'est ce que rapporte une étude de l'Observatoire de la démocratie de proximité conduite par l'AMF Sevipov et Sciences Po. Le chercheur Martial Foucault qui a mené cette étude affirme, je cite, « avec plus de 3000 changements de maire depuis l'élection municipale de 2020, on décompte 2200 démissions ». Fin de citation. Et à peine une quarantaine de maires auraient quitté leurs fonctions pour des faits de violence. Jovan Delorme, dit Jarl, a été placé en garde à vue hier. Il est suspecté d'avoir agressé les participants et participantes d'une rave party illégale dans le centre de Rennes début mars. Le procureur de la République rapporte que, je cite, « il a admis avoir jamais été titulaire d'une carte professionnelle considérant qu'il n'a jamais, de son point de vue, exercé d'activité d'agent de sécurité », a notamment indiqué le magistrat. Il a admis avoir exercé partiellement l'encadrement sans agrément du service interne de sécurité de la SARL West Discothèque, la société qui gère le 1988 Live Club. Le parquet a aussi signalé que l'ancien videur avait affirmé, je cite, « s'être trouvé à l'origine de l'achat auprès d'un site internet allemand de la totalité des bombes aérosols classées en catégorie B, retrouvées en perquisition le 12 mars 2005 dans le local sécurité et l'infirmerie de la discothèque. Le YARC est sorti de la garde à vue en fin d'après-midi. Il attend une nouvelle convocation pour d'autres faits, notamment en ce qui concerne l'intrusion dans le cinéma. Le 14 juin dernier, c'était le défilé fantastique du Triangle, un projet dans ce collectif et inclusif qui a eu lieu dans les quartiers du sud de Rennes. Un peu avant, Gwen a rencontré deux artistes de l'équipe chorégraphique, François Bocchéo et Equilibro Noah. Ensemble, ils et elles ont discuté de la musique du défilé.
François Bocchéo est danseur, professeur de danse, musicien et DJ. Il revient sur la musique du défilé fantastique qui a été un véritable travail d'équipe.
La construction des morceaux, le bricolage un peu, l'utilisation de samples et tout, c'est moi, mais c'est aussi un travail d'équipe parce qu'on a passé des journées à un petit peu débat des différentes musiques qu'on mettrait sur cette bande-son, donc c'est pas que moi, non.
Equilibro Noah, danseur, chorégraphe basé à Rennes, revient sur le processus de création de cette bande sonore.
Lui, il a pu travailler avec l'initiateur, Bruce Schaeffer, voilà, pour vraiment travailler sur des musiques qui traversent les temps, des musiques hip-hop, des musiques qui puissent fédérer aussi vraiment quoi. Donc du coup, ils ont travaillé beaucoup en écoute par rapport à cela. Du coup, il y a eu des changements aussi des musiques des temps de labo.
On a eu un temps de résidence, notamment pour créer cette chorégraphie, mais c'était aussi pour aussi trouver les morceaux. Donc là-dessus, c'était un petit peu un brainstorming de plein de choses musicales et dansées. Donc ouais, c'est à ce moment-là qu'on a eu plusieurs petits temps de résidence pour travailler ça.
Tout comme le projet du défilé fantastique, la musique doit parler au plus grand nombre. C'est pour ça qu'elle est si diversifiée.
On commence avec un morceau très rappé, hip-hop à fond. Après, on part sur de la funk. Il y a même un morceau qui est presque rave, qui est house presque rave. On a quand même une palette assez large pour aussi multiplier les ambiances et aussi diversifier un peu tous les moments du défilé. Donc ouais.
Au cœur de ce défilé, c'est la transmission de la culture hip-hop, de ses valeurs, du partage et de l'appropriation de la rue. Est-ce que tout ça passe aussi par la musique ?
Oui, tout à fait. Ça passe énormément par la musique. La musique est au cœur de ce mouvement-là parce que rien qu'à l'écoute, on a envie de bouger. Ça, cette énergie-là qui fédère, il y a une certaine hype. Fait que voilà, on n'est pas obligé de faire des gros mouvements pour se sentir vraiment hypé dans l'énergie hip-hop. Plus on s'intéresse, plus on a envie d'en pratiquer. Voilà, il y a un côté fun, il y a un côté technique. Quand on peut allier les deux, on le fait.
C'est vrai qu'en plus, nous, on vient plutôt de stylistique hip-hop, sauf Églantine, plutôt des danses contemporaines. Mais en gros, on voulait aussi transmettre tout ce qui va avec les danses hip-hop, parce que c'est une culture aussi qui est assez large, où il y a de la musique, il y a du graphe et tout. Donc il y a aussi la rue, quoi, tout simplement. Donc ouais, on a voulu, par les musiques aussi, transmettre ce partage-là. Et ce partage-là, ça se transmet aussi avec des musiques qui sont aussi fédératrices. Donc voilà, je pense que c'est par là que ça passe, quoi.
Déjà, le hip-hop a ce truc-là de particulier qu'on danse généralement ensemble. On partage soit un cypher, un cercle de danse. C'est à travers ça qu'on apprend. Voilà, par ceux qui sont un petit peu avancés, qui nous montrent des pas de danse. Et ça va se retranscrire un petit peu dans notre philosophie. Il y aura des plus jeunes qui vont arriver, ils vont apprendre et on va les transmettre aussi. Le parcours, il n'est pas toujours académique, il va s'apprendre, il va se transmettre comme ça directement aussi. Ouais.
Il reste encore quelques séances aux danseuses avant le jour J. Quasiment tout le groupe maîtrise l'ensemble du matériau chorégraphique.
Donc maintenant, le défi un peu, c'est de réussir à le faire en mouvement. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé quand même dans les salles de danse, dans les studios de danse. Maintenant, c'est comment on le fait dehors. Parce qu'on a quand même quasiment 2 km à danser. Donc oui, ça va être le défi, je pense, à venir.
1, 2, 3, 4. Marche, 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 marche. Droite, pouce, gauche.
Jusqu'au 14 juin, Équilibre Noah et François Bokebo ont quelques souhaits.
Belle énergie, énergie du hip-hop, qu'on soit dans le flow, qu'on soit dans la hype.
Et un maximum de soleil pour le 14.
Ouais, il y en a eu du soleil. Hein, Anthony ?
Oui. Ce dimanche 22 juin se tiendra un événement culturel dans la salle de spectacle de la Maison des Associations à 14h30. Au programme, un spectacle de danse du monde, Divine Divas. Des élèves danseurs et danseuses de l'association Les Sept Voiles nous feront vibrer avec une chorégraphie fusion, pop et orient. Également à la manœuvre, l'association tribale Arborescence. Réservation possible auprès de l'association Les Sept Voiles sur associationlesvoiles@gmail.com. Les prix de la soirée sont de 9 euros plein tarif, 5 euros pour les tarifs réduits.
Et c'est la fin de ce flash. Merci Anthony. On passe à l'interview.
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Et midi.
La radio sauvage.
Minuit.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Casquette à l'envers, vissée sur la tête, Kémo Veillon est élu délégué à la jeunesse à la Ligue de l'Enseignement 35. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez nous parler du congrès national de la Ligue de l'Enseignement, oui. Qui a lieu demain et après-demain à Rennes, au couvent des Jacobins. Est-ce que peut-être, pour commencer, on pourrait revenir sur les missions de la Ligue de l'Enseignement, rappeler dans quel contexte elle a été créée ?
Le contexte, je ne le situe pas exactement. Je sais que la Ligue a été créée en 1866 par Jean Massé. C'était juste après la République de Juillet, il me semble, de mémoire. Mais j'ai pas tout le contexte. L'émission de la Ligue, en fait, la Ligue, c'est une fédération associative laïque. Donc la laïcité, c'est le principe de neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Et ça défend d'autres idées, en fait, largement partagées depuis plus d'un siècle en France. Enfin, un peu moins d'un siècle, pardon, qui est par exemple l'école gratuite pour toutes et tous. Quoi. Cette fédération, c'est une fédération associative qui œuvre à travers un vecteur qui est celui de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est quoi? C'est l'émancipation citoyenne des gens, des individus, à travers, en dehors des dispositifs traditionnels et institutionnels d'éducation, par exemple. Donc, notamment à travers le tissu associatif national. Et donc, toutes les fédérations départementales de la Ligue seront là lors du congrès. France hexagonale, mais aussi des territoires d'outre-mer. Donc, ça va faire beaucoup de monde au couvent et on est très content de les accueillir.
Bah oui, c'est super. Et du coup, il y aura beaucoup d'ateliers, des conférences. Mmh. Et tout ça s'organise autour d'une question cette année qui est « Nouveau défi, nouvelle émancipation pour une ligue éduquant à l'esprit critique » avec un point d'interrogation. Alors, pourquoi cette question? Qu'est-ce qu'elle regroupe?
En fait, pour le dire sans trop... pour le dire sous la forme d'une synthèse, parce que c'est un sujet très intéressant et très profond. On le voit quand on suit l'actualité en flux tendu sur les réseaux sociaux ou dans les médias mainstream. L'esprit critique, c'est ce qui nous sert en fait à savoir quelle information est pertinente et laquelle ne l'est pas. Comment est-ce qu'on trie ses sources? Comment est-ce qu'on les choisit? Comment est-ce qu'on les recoupe? Ça, par exemple, pour ce qui est du factuel dans l'actualité politique, par exemple, mais dans ce qui est du fait scientifique, on a aussi remarqué depuis quelques années que la croyance supplante le fait qui est scientifiquement prouvé. C'est un problème, et donc il faut réussir à parer cet effet qui n'est pas un effet de mode, puisque ça fait quelques années qu'on observe ce phénomène, mais on s'attache vraiment, effectivement, à essayer d'enrayer ce phénomène. Quoi. La Ligue se bat en fait pour, pour une meilleure accessibilité de la vérité et pour une vérification accrue des faits.
J'ai l'impression que c'est très concret. Du coup, c'est quelque chose qui est remonté de différentes fédérations qui a fait que c'est cette question qui se pose cette année.
Ouais, la Ligue partage, toutes les fédérations départementales partagent les mêmes valeurs de base autour de la laïcité, de l'éducation populaire. Donc c'est des choses qui n'ont pas été très très compliquées à mettre en commun pour établir une question de congrès qui soit très largement partagée. Alors, tout reste à faire, à débattre, tout le partage aura lieu ce week-end. Mais c'est des sujets d'actualité et qui sont des sujets urgents. Donc, on est très content de les mettre à l'ordre du jour.
Et en parlant de cet ordre du jour, est-ce qu'on peut faire un tour rapide de la programmation? Est-ce qu'il y a des événements qui, dont vous avez envie de parler, que vous avez envie de mettre en valeur aujourd'hui?
Il y a plusieurs choses. C'est un programme très très fourni hein, dans l'ensemble. En fait, déjà, ce rendez-vous au congrès, on en fait d'une pierre deux coups. Parce qu'il y a cette question de congrès, il y a les différents ateliers, la conférence inaugurale, on reviendra sur les ateliers plus tard, j'en ai un ou deux à recommander. Et on a aussi le centenaire de la Ligue dont on parlera plus tard, mais voilà, c'est un gros gros programme. Les ateliers sont ouverts à toutes et tous sur inscription.
C'est gratuit ou c'est payant?
Il me semble que c'est gratuit. Gratuit, hein, la gratuité est souvent une valeur largement partagée à la Ligue aussi. Si on se veut ouvert à toutes et tous, et puis... pour un partage au plus grand nombre, il faut souvent essayer, en tout cas si c'est pas gratuit, d'être le plus accessible possible dans nos propositions d'activité en fait. Donc voilà.
Donc un exemple d'atelier peut-être?
Eh ben j'en ai deux. Alors là, en face de mes yeux, mais voilà, je vais vous les dire parce que c'est des ateliers que je pense très très intéressants sur des sujets qui moi me touchent personnellement parce que je suis aussi directeur de festival à Rennes. Il y en a un qui va être animé par Chloé Boivin, qui est une des salariées de la Ligue avec qui je travaille régulièrement, mais aussi avec Corinne Poulain, la directrice des Champs Libres, qui est l'atelier Art, Culture et Esprit Critique. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui va être très très intéressant pour tous les gens qui s'intéressent aux arts et à la culture et à l'esprit critique dans ces milieux-là. C'est souvent des mises en relation qu'on ne fait pas spontanément non plus. Pour autant, l'art a souvent servi à dénoncer comment dire, des vérités travesties, voilà, c'est des contre-pouvoirs importants qui permettent des fois de rétablir une vérité à travers, bah voilà, à travers des vecteurs un peu inhabituels. La deuxième conférence est celle de la démarche scientifique et de l'esprit critique avec Michel Cabaret, qui est académicien et directeur de l'espace des sciences, donc aussi au champ libre. Donc voilà, je suis pas un grand scientifique, j'ai fait un bac L et j'ai toujours été nul en maths. Mais voilà, Michel Cabaret, je le connais un petit peu. C'est une personnalité rennaise, voilà, qui est installée là depuis longtemps, qui est très intéressante. Donc rien que pour ça, j'encourage les gens à aller faire un petit tour à cet atelier.
Super. Et donc, vous l'avez mentionné, c'est aussi le centenaire de la Fédération d'Ille-et-Vilaine cette année. Alors peut-être que... Moi, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette antenne du 35?
Alors, cette fédération, c'est une fédération qui, bah, du coup, qui a 100 ans cette année, qui est une fédération importante quand même à l'échelle nationale, puisqu'on a, on a plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. On a à peu près entre 230 et 240 assos adhérentes. On a aussi en gestion un centre de loisirs à Vignoc, au nord de Rennes. On a vraiment entamé beaucoup de travail. On a un observatoire de lutte contre les extrêmes droites. On a aussi quelque chose qui revient très souvent, tous les ans à Rennes, depuis déjà plusieurs années, hein, je crois que ça fait plus d'une décennie ou deux même, c'est les rencontres nationales de l'éducation, justement, qui étaient déjà en 2024 sur le thème de l'esprit critique. On avait invité quelqu'un d'assez connu dans la communauté scientifique, que vous connaissez peut-être, Étienne Klein, pour faire la conférence d'ouverture. On a aussi un kit de pédagogie à destination d'une meilleure sensibilisation sur la transition écologique. On fait vraiment beaucoup de travail... voilà, considérés comme des travaux progressistes, en fait, dans le milieu associatif. Et ça, c'est accessible à toutes nos assos adhérentes. On essaie d'en faire aussi, comment dire, un contenu qui soit accessible, puisqu'on est aussi partenaire de l'éducation nationale, partenaire, voilà, aussi avec de nombreuses collectivités territoriales, collectivités locales et territoriales, la ville de Rennes avant tout, hein, qui nous aide à organiser ces rencontres nationales de l'éducation, notamment, mais aussi la région Bretagne et le département d'Ille-et-Vilaine. Donc c'est une fédération importante de par son nombre d'adhérents, de par son activité florissante et vraiment tournée vers le progrès social et écologique. C'est une fédération en phase avec ses collectivités, parce que politiquement, on est quand même pas, ni à Rennes ni en Bretagne, pas encore passé à droite. Du coup, on a la chance d'être bien soutenu par les collectivités. Et ça, franchement, c'est quelque chose voilà, qui nous aide à aller vraiment de l'avant, à aller vite, à être efficace dans notre contenu. Quoi.
Et donc, à l'occasion de ce centenaire, sort un film documentaire sur la Ligue 35. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, c'est un film qui a été réalisé par la société de production Point Barre. Donc, un documentaire sur la Ligue de l'enseignement 35. L'avant-première a lieu dans à peu près trois quarts d'heure.
J'espère que vous serez à l'heure.
Ah oui, bah, je vais aller juste après à Creative Seeds, Cesson Sévigné.
Vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez sûrement y être à l'heure.
Voilà, même si vous n'êtes pas inscrit, il restera sûrement des places. Ouais. En plus, c'est accessible en métro, ligne B. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un documentaire qui va retracer un peu l'histoire de la Ligue, les différentes actions qui ont pu être réalisées au cours de ces 100 ans. Les personnalités qui ont participé à la construction et au développement de cette fédération départementale. Et puis les perspectives d'avenir aussi, qui sont quand même relativement... nous, on a un socle solide de valeurs, mais les perspectives restent floues. Si vous voyez ce que je veux dire, on est quand même dans un moment un peu, un tournant un peu crucial, hein. Politiquement, économiquement, c'est compliqué. Mais voilà, on essaie de garder des perspectives encourageantes et de donner l'envie aux gens de nous rejoindre sur cette fédération. Quoi.
Et d'ailleurs, dans la bande-annonce du film, on entend « L'époque qui vient va nous demander d'être plus tranchés politiquement ». D'ailleurs, vous m'avez dit que c'est vous qui le dites.
C'est la phrase de clôture de la bande-annonce. Cette phrase-là, je l'ai glissée lors d'une interview qui était beaucoup plus longue, hein, qui va sûrement servir pour le documentaire. Enfin, je sais pas trop, mais on va voir ça tout à l'heure. En fait, cette phrase-là m'est venue parce que pendant longtemps, je pense que le milieu associatif a beaucoup été dans des discours plus consensuels, plus complaisant avec les décisions politiques qui pouvaient parfois nuire au tissu associatif, nuire à l'éducation populaire, peut-être aussi qui pouvait jeter un flou sur les notions de laïcité. Hein. Il y a eu la laïcité est un mot qui a été un peu vidé de son essence et réemployé à différentes sauces par différents courants politiques, courants d'idées. Peut-être d'être plus tranché, d'avoir une forme de radicalité dans le fait de tenir des positions claires et un cap clair sur nous, ce qu'on est politiquement, notre contenu politique et sur les méthodes qu'on emploie à rendre notre contenu le plus accessible pour toutes et tous.
Et ce film, après la première de ce soir, on pourra le voir encore ou quand, comment?
Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, j'ai pas toutes les réponses. Je pense qu'on peut retrouver ce genre d'infos sur le site de la Ligue 35, donc ligue35.org, quelque chose comme ça. Ou alors peut-être même sur le site de la société de production.bard. Mais sinon, juste se rendre au congrès, et puis je pense que l'info sera aussi là-bas. Ouais. On aura de toute façon les réalisateurs qui seront avec nous tout le week-end, puisque en plus il y en a un via une asso adhérente qui vient, un des réalisateurs qui vient d'être élu au CA de la Ligue 35, donc on est ravis de l'accueillir cette année. Et puis en tout cas pour la rediffusion, les infos seront faciles à trouver, je ne les ai pas là tout de suite, mais voilà.
Et puis vous avez aussi réalisé une expo pour revenir sur l'histoire de la Fédération d'Ille-et-Vilaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette exposition, je crois en passant peut-être rapidement les 6 séquences qui la composent?
Oui, alors là encore, c'était pas vraiment de mon, c'est pas mon expertise sur le congrès, mais j'ai répertorié les six axes un peu de cette exposition qui sont la bataille pour la République et son école, le combat toujours renouvelé de la laïcité. Je viens d'en parler. Pourquoi? Parce que voilà, la laïcité est toujours un sujet brûlant de nos politiciens. La structuration des assos sportives et culturelles. Le défi éducatif au cœur du projet fédéral, c'est-à-dire partenaire de l'école publique, les classes de ville, les rencontres nationales de l'éducation, tout ça, comment est-ce qu'on peut renforcer tous ces dispositifs. L'affirmation d'un mouvement d'idées, donc encore une fois j'en parlais, les notions de laïcité, les notions d'éducation populaire, qui sont vraiment nos deux lignes directrices dans le...
Et puis c'est intéressant parce que moi, en jetant un œil un petit peu aux encarts explicatifs, j'ai appris plein de choses sur le rôle, par exemple, de l'Église qui a voulu freiner les actions de la Ligue, etc. à l'époque. On se rend compte que les choses, après, ne changent pas forcément avec le temps. Ouais. C'est très intéressant.
Il y a des sujets compliqués. Et puis sinon, fédérer les associations laïques, Mais plus globalement, la Ligue, c'est quelque chose qui est très, très important. Juste un exemple comme ça, moi j'étais à Rennes 2 pour mes études, ça a duré 2 ans, j'ai raté mes études, je savais pas quoi faire, j'ai fait un service civique via la Ligue de l'enseignement dans une structure qui 5 ans plus tard m'a nommé directeur, et voilà, c'est comme ça qu'on peut émanciper un citoyen sans passer par les canaux les plus institutionnels ça fait partie des choses qui peuvent aussi aider à l'émancipation, quelque part, sauver des gens. La Ligue, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Chacun a sa petite histoire avec la Ligue, à travers les assos, à travers les valeurs qu'elle porte. Et donc ça, toujours...
Et puis, il y en a une autre qui fait un service civique à la Ligue en ce moment, c'est Maïlis, qui a travaillé aussi sur un projet d'expo audio-photo. Alors, on l'a vu à Silab venir emprunter des Zooms là, récemment. Dans le cadre de ce centenaire aussi, vous pouvez nous dire 2-3 mots sur cette expo photo audio?
Alors, j'avoue que je méconnais un peu le contenu de cette expo pour le moment. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour nous, on attache quand même une importance... une forte importance au regard de la Ligue à travers différents prismes, dont le regard des services civiques qu'on peut accueillir dans nos associations adhérentes. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, en fait. C'est-à-dire qu'on va solliciter les services civiques pour nous montrer ce qu'ils ont à dire de la Ligue. Et puis je pense que du coup, c'est un peu ce que Maïlis a fait. J'ai pas eu connaissance encore du contenu de cette expo, mais je vais la découvrir ce week-end.
Je crois qu'elle a fait des petites capsules sonores et des photos de volontaires en service civique pour expliquer un peu leur parcours, leur profil. Il me semble que c'est...
C'est super parce que ça va montrer aussi la diversité des profils qu'on accueille à la Ligue et la diversité des associations aussi qui sont adhérentes chez nous. Donc en fait, ça va peut-être quelque part provoquer quelques vocations. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens que ça va donner envie de nous rejoindre, d'entamer des services civiques, d'être bénévole dans des associations, de porter nos valeurs. Donc ça, c'est important.
Et tout ça, c'est à découvrir du coup au couvent des Jacobins ce week-end.
Tout à fait.
Pour le congrès de la Ligue de l'Enseignement. Merci beaucoup.
Mais merci à
vous.
Et
puis bon congrès.
Merci.
Et bonne première ce soir.
Merci
bonne
beaucoup,
course par le métro.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et c'est le retour de la chronique Métalstase de Tristan. À toi, Tristan.
Métalleuses et métalleux de Rennes, bonsoir. C'est
bonsoir.
Un plaisir que de vous retrouver sur Scilab pour le cinquième volet de Métalstase, votre radiothérapie à ondes saturées. Le 6 mai dernier au soir, Dark Tranquility, légende suédoise du death metal mélodique, pensionnaire de la précédente chronique, faisait étape dans notre ville. L'une des 32 dates de leur tournée européenne, la deuxième pour défendre End Time Signals, leur album sorti en août 2024, le dernier en date. Ils étaient accompagnés une nouvelle fois de Moonspell et Iraes, avec qui ils se sont donc produits à la salle L'Étage, un concert organisé par l'association rennaise Guermont Bodzia. Alors chouette, une rétrospective de concert. Pensez-vous certainement. Eh bien, ce serait grandement sous-estimer la maestria syllabienne, puisqu'après avoir contacté Guermont Bodzia, j'ai obtenu non seulement l'interview du directeur Fred Schoen, mais également l'interview des trois groupes de la soirée.
Bravo Tristan.
J'en pleurerai presque. Dark Tranquility, Moonspell et Iraes à L'Étage de A à Z, j'ai toujours rêvé de le dire, c'est maintenant en exclusivité sur Scilab. En premier lieu, je me suis donc entretenu avec Fred Schoen, directeur et programmateur en chef de Guermont Bodzia, sur ce plateau. L'association organise depuis 27 ans des concerts de musique extrême un peu partout en France, principalement à Paris, Nantes et Rennes. Ainsi, Fred nous explique l'organisation de la soirée du 6 mai. Fred, qui a la voix aussi saturée que la musique qu'il programme.
Il m'a dit, voilà, on peut faire Rennes le mardi 6 mai. Ensuite, donc, je contacte directement les salles avec qui on travaille. En l'occurrence, pour ce plateau, il n'y a que deux salles à Rennes qui auraient pu convenir vis-à-vis de la capacité, donc L'Étage et l'Antipode. Mais comme on a aussi de nombreux autres concerts à cette période, enfin, sur ce premier semestre à l'Antipode, voilà, on s'est dit, ce serait bien de retourner à L'Étage, parce que ça fait facilement un an et demi qu'on n'a pas programmé de date là-bas. Donc la salle est en dispo ce jour-là, ensuite voilà, on réserve, puis on arrive la phase de négociation avec l'agent du groupe pour se mettre d'accord sur les conditions financières. Et ensuite voilà, quand tout le monde est d'accord, on confirme, la tournée est annoncée, on est en vente, et puis après bah, voilà, c'est parti pour promouvoir l'événement au maximum.
T'avais un micro en plastique ?
C'est surtout ce Fred qui est un sacré amateur parce qu'il n'a pas bien réglé sa voix avant l'interview.
Toujours la faute des voix.
Voilà, on est les invités qu'on mérite. Hein. Il évoque également les difficultés pour inclure Rennes dans les tournées des groupes de métal. En effet, avant ou après le Royaume-Uni, les groupes préfèrent jouer à Lille ou Paris. Étant donné sa mauvaise position par rapport aux itinéraires des artistes, Fred explique que sans la première tournée française en novembre dernier, il n'y aurait pas eu cette date dans la capitale bretonne. Une semaine plus tard, le grand jour est arrivé. À 16h20, me voilà sur la place Charles de Gaulle, zoom en main. Alors que des fans attendent impatiemment la rencontre VIP avec Dark Tranquility prévue à 17h, j'appelle Clément Savario, mon contact à Guermont Bodzia. Ce dernier me fait rentrer côté loge, ce qui me permet de rencontrer le tour manager, un homme manifestement très occupé, puisqu'il ne se souvenait plus de ma venue.
Oh non.
Et c'était l'occasion pour moi d'être encore plus pâle qu'un fan de black metal en corpse paint. Voilà. Heureusement, la mémoire le revient et Clément peut m'accompagner jusqu'à L'Étage et son bar. D'ici, je peux assister à la fin de répétition des Allemands d'Iraes, ainsi qu'à l'acheminement de la sacro-sainte boisson. De quoi arroser la ville pendant 5 ans, environ. Une fois la répétition terminée, retour en loge pour Iraes, le temps pour moi de régler mon matériel. Puis les choses sérieuses débutent, alors que la chanteuse Britta Gortz ainsi que le batteur Mathias Blasseux sont de retour dans la salle et se dirigent vers moi d'un air aussi détendu que leur musique. Go ! Je plaisante, ils étaient effectivement très détendus et ont donc pu me raconter la création de leur groupe de death mélodique en 2020. Ils disent également être ravis du déroulement de la tournée ainsi que de leur dynamique actuelle. En effet, signé dès leur début chez le géant Napalm Records, IRS connaît actuellement une montée en puissance. Une fois les deux compères partis se restaurer, pas le temps de rêvasser, puisque Fernando Ribeiro, charismatique vocaliste et leader de Moonspell, le plus grand groupe du Portugal, s'avance. L'occasion d'évoquer le fait que le dernier opus Hermitage date quand même de 4 ans. Que les fans se rassurent, le groupe écrit actuellement de nouvelles chansons, et ce même en pleine tournée. Pour ce qui est du délai, Fernando explique que l'inspiration n'était pas là tout simplement, et qu'il était hors de question de sortir un album bâclé. Il nous dit également que même si Moonspell a pu sortir beaucoup d'albums en peu de temps par le passé, cela n'est plus possible aujourd'hui. Selon lui, cela nécessite du temps, si l'on veut faire à chaque fois quelque chose de différent.
Je crois que pour les groupes qui ont déjà un passé et un héritage, c'est toujours plus compliqué de trouver une direction. Moonspell a déjà été dans beaucoup de directions. Hermitage, c'était un mélange entre metal et dark prog, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. Donc on a pris notre temps et ça sortira en 2026.
Ma dernière interview est en vue en la personne de Michael Stanne, éternel chanteur de Dark Tranquility. J'ai pu évoquer avec lui le nouvel effectif du groupe. Il y a en effet 3 changements depuis Moment, le disque précédent. Le Suédois s'avoue très impressionné par le niveau de ses recrues et se réjouit du nouvel arsenal technique à sa disposition. Et bien évidemment, nous avons pu discuter du tout frais et bien nommé End Time Signals, signaux de la fin des temps.
And also it's very honest, it's a very open album. C'est un disque très honnête et clair sur comment on se sent par rapport au monde, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. C'était comme si on avait besoin de crier, d'écrire, de sortir toutes ces émotions négatives. La frustration, la colère, le souci. C'est vrai qu'on peut se sentir impuissant dans le monde dans lequel nous vivons.
Le fan de death mélodique que je suis a également pu se voir compter par l'une des légendes de la scène, le Göteborg des années 90, où tout ce petit monde se connaissait, Michael ayant été voisin de Thomas Lindberg d'At The Gates. Rien...
Normal.
Vas-y, oui. Voilà. Les interviews terminées, je ressors le temps de m'envoyer une petite planche apéritive avec mon père, qui lui aussi est venu assister au concert. Nous revenons juste à temps pour assister à la déferlante brève, seulement 6 morceaux, mais intense, du death mélodique d'Iraes. Une très bonne prestation, uniquement ternie par des incursions dans le chant clair, justement pas si clair que ça, malheureusement. Moonspell prend ensuite le relais et conquiert le public grâce à ses hymnes gothiques, bien aidé par un Fernando Ribeiro ne cessant d'haranguer la foule. La soirée est magistralement conclue par Dark Tranquility, qui nous offre une pléthore de titres issus de leur nouvel album ainsi que du reste de leurs 35 ans de carrière. Je remercie chaleureusement Garmon Bodzia, en particulier Fred Chouen et Clément Savario pour avoir rendu tout cela possible. Un énorme merci aux artistes et à leur tour manager d'avoir accepté les interviews. Merci à Silab pour le matos. Les interviews seront présentes sur le site sous peu. Et il ne me reste plus qu'à imiter Fernando Ribeiro.
Merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine, Tristan. Je regardais la grille. Là. Tu es là la semaine prochaine pour une chronique ou pas, non? C'est la dernière, là.
Non, je ne crois pas. Plus.
Ouais. Ouais. Mais peut-être la saison prochaine pour continuer Metal Stars.
Ça va être grand plaisir.
Yes, super. Merci, Tristan. J'ai l'impression que tu as kiffé ta soirée.
Oui.
C'est ça qui compte.
Oui, c'était génial.
Je crois qu'on a un petit message sur le répondeur, Marilyn. Le sport.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Silab, la radio sauvage.
Salut tout le monde, c'est Quentin. Bon, bah, moi, 6 heures avant minuit, généralement, je rentre du travail, je vous écoute sur la route. Franchement, je trouve les débats sont super, super sympas à chaque fois. Les émissions abordent des sujets qui sont sociétaux, intéressants, et, etc. Enfin bref, vous mettez la lumière sur plein de trucs. Je vous envoie de la force, je vous embrasse, plein d'amour et faites que ça continue. Hein. Ciao, ciao.
Mais oui, ça continue. Merci Quentin, ça fait chaud au cœur si vous voulez prendre... exemple sur Quentin, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02
30 96 25 35. Voilà, on vous écoute puis on diffuse ça à la fin de l'émission. Je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas, il y a un jeu concours en ce moment, c'est l'association Pengal Alayam qui vient en aide aux femmes et filles indiennes victimes de violences, qui organise deux journées de découverte de la culture indienne les 27 et 28 juin prochains à Janzé, c'est le Fest India. Et pour l'occasion, vous pouvez gagner une place pour le spectacle de danse et musique indienne du Fest India le samedi 28 juin à 20h30 à la salle du Jansieg. Pour jouer et pour gagner, le mot de passe, c'est... Est-ce que vous l'avez autour de la table ?
Le Temple des Femmes.
Merci Maëva. Le Temple des Femmes, mais oui, Pengal Alayam en tamoul. Rendez-vous sur c-lab.fr pour jouer. Merci Marilyn pour la technique.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.